Vous êtes sur RTL.
Yabi.com. RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche du département de la Creuse.
Et bienvenue dans ce studio d'RTL. Bonjour Jean-Baptiste Moreau.
Bonjour.
Deux femmes puissantes aux commandes à Bruxelles, l'allemande Ursula von der Leyen, on se familiarise avec son nom depuis hier. Et elle est le nouveau visage de l'Europe. Et puis, elle est présidente de la Commission, bien sûr, depuis hier. Et puis Christine Lagarde, on la connaît bien, l'ancienne ministre des Finances de Nicolas Sarkozy, patronne de la ancienne patronne du FMI et qui devient patronne de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Deux femmes à ce niveau de responsabilité, c'est une première. Symboliquement, c'est important.
Oui, c'est important. C'était d'ailleurs une demande du président de la République française d'avoir une parité sur ces postes à responsabilité. Mais au-delà de deux femmes, c'est deux femmes compétentes surtout. C'est deux femmes qui ont de l'expérience et qui vont être particulièrement à leur place dans les postes qu'elles vont occuper, que ce soit Christine Lagarde ou Ursula von Leyen. Elles sont vraiment un haut niveau de compétence et c'est issu d'un compromis entre les différents pays. Et on disait que le couple franco-allemand était au plus mal. La preuve en est aujourd'hui qu'il ne se comporte pas si mal que ça, puisqu'on a une Allemande et une Française, même si on sait très bien qu'à ce niveau de responsabilité, ce n'est pas la nationalité qui fait la politique, mais c'est l'art des compromis. Mais
puisque vous en parlez, effectivement, est-ce qu'on peut en considérer que la France et l'Allemagne, si on regarde l'ensemble des nominations hier à Bruxelles, se taillent la part du lion finalement?
Oui, mais on sait très bien qu'après, une fois qu'elles sont en responsabilité, elles n'ont plus elles sont plus identifiées au pays. Elles sont là pour défendre l'Europe et pour faire avancer l'Europe. Et j'ai toute confiance dans cette nouvelle équipe. On va voir au niveau du Parlement européen qui va être élu. On parle éventuellement d'un Bulgare ou autre. Mais l'important, c'est d'être arrivé à ce compromis, d'être sorti de cette logique des Spitzenkandidaten qu'on voulait nous imposer, qui n'était pas conforme, automatiquement nommé par les partis et dont certains n'avaient aucune expérience. Là, on a des femmes d'expérience avec une ancienne ministre de la Défense, avec de l'autre côté l'ancienne ministre des Finances, présidente du FMI. Enfin, on a des femmes d'expérience et des femmes de qualité.
Que vous saluez ce matin. On reste sur une affaire de bruxelloise qui provoque beaucoup d'émotions depuis vendredi dernier. Et c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien à cette affaire de Mercosur, accord commercial signé entre l'Union européenne et quatre pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, qui vont nous permettre normalement de faire 4 milliards d'économies, d'exporter énormément de produits et d'en avoir en contrepartie beaucoup en importation. On entend tout et son contraire. Pour vous, est-ce que c'est un bon accord ?
Non, c'est un mauvais accord. Je suis assez clair là-dessus. Le président de la République a dit qu'il fallait trouver une voie pour ces accords.
Dit que c'était un bon accord.
Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui. Donc je vais essayer de le convaincre. Non, mais globalement, le président de la République a dit qu'il fallait trouver un chemin entre la naïveté libre-échangiste qui a prédominé à la Commission européenne depuis 20 à 30 ans et qui a conduit à son rejet aussi par la population, parce que cette naïveté libre-échangiste où on se soumet aux règles de l'OMC et on est les seuls à se soumettre par rapport à toutes les autres entités régionales, mondiales, et du coup on se met en état de faiblesse et on met notre économie en état de faiblesse, et donc il faut trouver un chemin entre cette naïveté libre-échangiste et le protectionnisme idiot à la Trump qui ne favorise absolument pas l'économie. Mais moi pour ce Mercosur, je pense qu'il penche davantage dans la naïveté libre-échangiste, puisque un mandat qui date d'il y a 20 ans avec une commission qui est en bout de course, avec un commissaire à l'agriculture qui vous explique qu'il va donner 1 milliard d'aide publique pour compenser les effets néfastes du Mercosur sur l'économie européenne, à quoi il sert cet accord s'il déstabilise l'économie européenne?
Vous permettez juste de dire que, par exemple, Sibeth Ndiaye, qui est quand même porte-parole du gouvernement, a mis en avant, elle, une clause de sauvegarde qui permettrait de stopper net les importations dans les filières bovines et sucrières si ça allait déstabiliser, par exemple, au niveau français.
Oui, non, mais je suis d'accord. La France a obtenu, et s'était opposée d'abord au Mercosur, avec la Pologne, notamment la Belgique. Mais aujourd'hui, cette clause de sauvegarde, moi, j'attends de voir comment elle se déclenche, parce que, honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est une usine à gaz que quoi que ce soit d'autre. La clause de sauvegarde, elle doit être proposée par un État membre avec une enquête de la Commission européenne pendant 6 mois. En 6 mois, vous avez le temps de fermer un paquet d'exploitations agricoles.
À l'unanimité ou pas, la clause de sauvegarde?
Oui, il faut qu'elle soit validée par les États membres.
Donc vous dites, de toute façon, ça c'est du flanc.
Je vois pas en quoi ce mécanisme protège l'économie française.
Alors, autre parade que met en avant le gouvernement, il y aura une évaluation préalable et indépendante avant la ratification par le Parlement.
Oui, ben ça c'est nécessaire, c'est ce qu'on a fait sur le CETA, on a réussi à faire bouger les lignes sur le CETA. Mais moi, globalement, avec le Mercosur, ce que je mets en doute, c'est la possibilité, avec une agriculture aujourd'hui française qui est reconnue comme la plus durable du monde par un magazine américain, de mettre en libre concurrence, c'est-à-dire avec des droits de douane très faibles, avec une agriculture qui est sans doute la moins durable du monde, avec des fermes-usines de 15 000 hectares, de 15 000 têtes
Quelle
de bétail.
Quelle est la menace finalement pour notre filière bovine?
C'est la destruction de la filière viande bovine,
Pourquoi
très clairement.
Destruction
mais parce qu'on va mettre en concurrence notre agriculture, des fermes à taille humaine et familiale avec des coûts de production, avec des fermes qui n'ont des coûts de production, qui ont des coûts de production très faibles, qui vont exporter à des prix défiant toute concurrence, mais avec un niveau de qualité sanitaire et de sécurité sanitaire qui est à peu près au niveau de zéro, voire négatif.
C'est-à-dire des aliments traités avec des produits interdits en France.
Bolsonaro, au Brésil, vient d'autoriser 250 produits qui sont interdits en France. 200 produits pesticides, 200 produits phytosanitaires. Il faut savoir que 70% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en Europe. Donc, comment on va contrôler? Aujourd'hui, il y a eu un rapport de Michel Dantin l'année dernière, en mars 2018. Au Brésil, député européen français en charge des questions agricoles. Ils ont été faire une enquête au Brésil l'année dernière, en mars 2018, qui a démontré qu'il n'y avait absolument aucune traçabilité dans les filières agricole brésilienne. Donc, aucune traçabilité. Qui va aller contrôler la qualité de ce qu'on importe? Aujourd'hui, l'Europe, justement, il faut qu'elle sorte de sa naïveté ultralibérale. Elle n'a jamais été contrôlée, elle ne contrôle pas dans les pays d'origine la qualité de ce qu'on importe en Europe. Elle contrôle quand, une fois que ça arrive à Rotterdam ou dans les ports. Et il y a un certain nombre de molécules, je pense aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance ou aux hormones, si elles sont arrêtées suffisamment longtemps avant l'abattage, si elles ne sont pas contrôlées sur place, c'est-à-dire dans les pays d'origine, elles ne seront pas détectables une fois arrivées sur le continent européen.
Avec un réquisito pareil, en tout cas, vous ne voteriez pas ce texte.
Ah non, je ne le voterai pas.
Donc, ça va arriver dans longtemps. Hein,
Oui, parce qu'il faut d'abord que ce soit ratifié.
Vous êtes sûr de ne pas crier avant d'avoir mal, là?
Non, mais si, bien sûr, il y a encore des négociations. Il y a 27 pays, les 27 chefs de gouvernement qui doivent le valider d'abord. Après, ça doit passer devant le Parlement européen, où je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité aujourd'hui pour le voter, puis devant les parlements nationaux. Donc effectivement, on n'y est pas encore. C'est pour ça qu'il faut rassurer les agriculteurs. Ce n'est pas demain que la viande du Mercosur va arriver de façon complètement libre.
Mais il faut renégocier le texte. Il faut remettre le terme.
Négocier, c'est pas possible.
Vous avez mis 18 ans, la commission a mis 18 ans.
La commission a mis 18 ans. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle commission, on va être plus efficace et on mettra moins de temps. Et peut-être qu'il faut lui donner un nouveau mandat qui est adapté à la situation économique aujourd'hui en Europe et dans le monde, globalement, qui a changé depuis 20 ans.
Mais vous ne risquez pas de précipiter Bolsonaro, le président brésilien, dans les bras de Trump et comment dirais-je, d'encourager encore son climato-scepticisme?
Oui, mais il a signé, d'accord, il est resté dans l'accord de Paris, d'accord, il a signé des clauses dans cet accord du Mercosur pour protéger l'environnement et la biodiversité. Mais quelle garantie on a au bout? Qui va les contrôler? C'est M. Juncker ou c'est M. Hogan qui va aller expliquer à l'agriculteur brésilien qu'il ne faut pas qu'il coupe les 1000 hectares de forêt qui lui permettent de produire pour exporter sur l'Europe? Enfin, je veux dire, quelle garantie on a qu'il va les respecter? Aujourd'hui, il est dans l'accord de Paris, il déforeste 450 hectares par jour.
Vous n'avez aucune confiance dans ses engagements en ce qui concerne la défense de l'environnement, et vous n'êtes pas le seul. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, alors là, c'est beaucoup plus concret, il arrive la semaine prochaine au Parlement. Vous le votez, celui-là?
Oui, je le vote, parce que justement...
Votre coup de gueule contre le Mercosur, c'est un peu pour la façade.
Eh ben non, pas du
tout.
Parce
que c'est dans très longtemps que vous aurez à vous prononcer dessus, alors que le CETA, que Nicolas Hulot présente comme aussi dangereux.
Ben c'est faux.
Pour l'environnement.
C'est faux. Le CETA, aujourd'hui, il est appliqué depuis 2 ans, en réalité, puisqu'on le ratifie, mais ça fait 2 ans qu'il s'exerce. On a exporté plus de 10% de produits laitiers là-bas, on importe moins de viande qu'avant la signature. Donc c'est faux. Sur l'agriculture, il a un effet plus positif que négatif. L'agriculture française et européenne, elle a besoin d'exporter. Donc elle a besoin d'accords internationaux. Il y a un accord qui s'est signé avec le Japon, ça n'a pas fait de bruit, ça
Nicolas Hulot, quoi, il instrumentalise le CETA dont vous dites que vous avez obtenu
un peu. Il y a un certain nombre de garanties sur le CETA, et l'agriculture canadienne n'est pas comparée avec l'agriculture sud-américaine. Au niveau environnemental, c'est à 1000 lieues l'une de l'autre.
Les bœufs canadiens, ils sont pas nourris au maïs OGM, par hasard.
Ils sont nourris au maïs OGM, bien sûr, mais comme 90% de l'agriculture mondiale, grosso modo.
Oui, mais donc, c'est pas une raison, puisque c'est interdit en Europe. Enfin, il y a que l'Espagne,
je crois. Le soja OGM est autorisé en Europe.
Mais il n'y a pas de maïs. La culture. Pas de maïs OGM.
La culture est interdite en France et en Europe. Ça, c'est clair. L'utilisation n'est pas forcément interdite. Mais après, il y a un certain nombre de de cadre environnemental sur le CETA.
Jean-Baptiste Moreau, un petit mot, parce que je parlais du cannabis tout à l'heure. Alors vous pensez que le cannabis peut sauver l'économie creusoise, par exemple?
Pas que creusoise, mais française. Il faut surtout sortir
c'est
de l'hypocrisie.
C'est votre département, hein.
Oui, que vous connaissez bien, je crois. Oui. Donc, il faut sortir de l'hypocrisie permanente sur le cannabis et sur le chanvre. Moi, je prône la création d'une mission d'information à l'Assemblée nationale sur les différents usages du cannabis, depuis le thérapeutique jusqu'à ce qu'on appelle le cannabis bien-être ou CBD, qui a des effets, qui n'a pas d'effet psychotrope, mais des effets myorelaxants, et jusqu'à la légalisation totale du cannabis. On va avoir ce débat. Il faut poser ce débat
mais
de façon non dogmatique.
Mais il a dit non, le gouvernement, pas de légalisation.
Mais il a dit pas de légalisation, mais on peut poser le débat, on peut en discuter. Il faut échanger. C'est une question de société importante.
Donc vous voulez apaiser le débat de façon à arriver lentement mais sûrement à la légalisation.
Je ne sais pas, la légalisation, on verra. Il faut voir dans les différents pays où ça a été légalisé, quelles conséquences ça a eu, si ça a été positif. Aujourd'hui, en France, on est le pays le plus répressif au niveau de la législation et on est le plus gros consommateur. Donc il y a une impasse, il faut faire quelque chose.
Et donc, vous voulez être rapporteur de cette mission d'information parlementaire, sur l'ensemble de l'usage du cannabis. Une dernière question plus politique. Jean-Yves Le Drian va lancer, c'est imminent, son club politique avec Didier Guillaume et Olivier Dussopt. Trois ministres venus du PS, ils veulent accueillir ceux qui soutiennent Emmanuel Macron sans vouloir être à La République En Marche. En fait, son idée, c'est qu'il y a trop de droite à La République En Marche dans la majorité, il faut faire un pôle de gauche. Vous êtes pour ?
Ah ouais, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan des courants. C'est ce qui m'a empêché de m'engager et de m'encarter en politique. Honnêtement, ça finit forcément en écurie à candidat. Et franchement, je pense qu'on peut discuter avec tout le monde. On n'a pas besoin de créer des courants ou des mouvements d'un côté et d'autre, que ce soit à gauche ou à droite. Je suis à l'aise parce que je viens plutôt du côté gauche. Mon père était militant 40 ans au Parti Socialiste. Donc voilà, mais ouais, j'ai peur que ça dénature la nature d'En Marche, qui est de pouvoir mettre ensemble des gens de droite et de gauche qui discutent ensemble. Et si on se réunit qu'entre soi, entre gens qui sont toujours d'accord, ça n'apporte pas grand-chose et ça ne fait pas avancer les débats.
C'est dit. Merci Jean-Baptiste Moreau d'avoir été ce matin sur RTL.
Et comme chaque jour, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci.